Esprit de Justice qui, ce soir, va s'intéresser aux enfants soldats ou quand les victimes deviennent des criminels. Le 15 décembre 2022, la Cour pénale internationale déclarait coupable en appel Dominique Ongwen de 61 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont celui de grossesse forcée, une première pour la CPI, mais aussi de meurtre, de viol, d'esclavage sexuel et d'enrôlement d'enfants soldats. Tous ces crimes ont été commis en Ouganda dans les années 2000. Dominique Ongwen était en effet le commandant de la sinistre brigade Sinya de l'armée du Seigneur. L'armée du Seigneur qui a été fondée en Ouganda dans les années 80 par un ancien enfant de cœur d'ailleurs, Joseph Kony, et qui voulait établir un régime fondé sur les 10 commandements. Et donc Dominique Ongwen a été condamné à 25 ans de prison, peine qu'il purge actuellement en Norvège. Tout cela n'est que justice, pensera-t-on. Où est le problème? Eh bien, la difficulté, c'est que le même Dominique Ongwen a été kidnappé sur le chemin de l'école vers l'âge de 9 ans, dans un attentat au cours duquel ses parents auraient perdu la vie, et qu'il a été contraint de commettre des atrocités. Bref, Dominique Ongwen est ce qu'on appelle un enfant soldat. Dès lors, la question posée à la justice était la suivante. Fallait-il le condamner comme victime ou comme un criminel contre l'humanité? Il n'aurait probablement jamais commis de telles atrocités s'il n'avait pas été lui-même victime des mêmes atrocités étant enfant. Ce dilemme n'est pas isolé, on le retrouve pour certains agresseurs sexuels d'enfants qui sont d'anciens enfants violés, ou encore des capots dans les camps de concentration nazis qui étaient choisis parmi les prisonniers et qui infligeaient des punitions terribles. C'est donc la situation des enfants soldats qui va nous occuper ce soir et qui nous permettra de réfléchir aux limites du jugement, voire aux limites du droit pénal. Et on va aborder cela avec un professeur américain, Mark Drumbull, qui est professeur à l'école de droit de la Washington and Lee University, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles, et notamment d'un ouvrage, je traduis de l'anglais, « Imaginer un nouveau statut des enfants soldats en droit international » à Oxford University Press. Et il a écrit un article qui résume avec cette concision de la langue anglaise « Victims who victimize » ou « Quand les victimes deviennent criminelles » dans la London Review of International Law.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Mark Drumbull.
Oui, bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je vous dis bonsoir, mais pour vous, c'est le début de l'après-midi, parce que vous êtes avec nous depuis Washington. Merci beaucoup, Mark Drumbull, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup aussi de vous exprimer en français, qui est un privilège pour nous de pouvoir vous entendre ce soir. Alors, ma première question, ça sera sur Dominique Ongwen, parce que vous avez écrit sur cette... Alors, j'allais dire sur ce sinistre individu, sur ce cas terrible de l'enfant soldat, d'un homme qui a été à la fois un criminel absolument impitoyable, mais en même temps qui a subi un crime terrible.
Oui, absolument. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir un peu de temps pour parler avec vous, Antoine. Et je ferai de mon mieux en français.
Merci.
Mais vous savez, Monsieur Ongwen, comme vous l'avez dit, à l'âge de 9 ans, il se faisait enlever, kidnapper par des rebelles en Ouganda. Et là, il a passé à peu près 10 ans dans le cadre d'apprendre comment devenir guerrier. Il était enfant soldat, il a été socialisé dans un environnement plein de violence, plein de colère, plein d'instabilité. Et il a réussi, il va falloir qu'on l'admette, il a réussi puisqu'il est devenu, comme vous l'avez dit, commandant. Il était vraiment juste en bas de Joseph Kony, qui est le chef du Lord's Resistance Army en anglais, l'armée du Seigneur, comme vous l'avez dit. Et il avait l'occasion d'exercer beaucoup de pouvoir, mais à la fois, il était aussi contrôlé par Kony, non seulement au niveau psychologique et spirituel, mais aussi au niveau direct. Vous le savez, à plusieurs moments, Kony voulait assassiner, voulait tuer Angouane. Mais il ne l'a pas fait, puisque un de ses femmes, on a eu des problèmes, comme vous le savez, dans l'armée du Seigneur, du mariage forcé, et une de ses femmes était une relation membre de la famille de Angouane. Alors Kony a refusé de le faire. Mais à la fois, juste pour dire vite, il faut reconnaître que c'est un individu socialisé dans un contexte violent qui avait beaucoup de pouvoir, mais aussi à la fois, il fallait qu'il poursuive aussi une stratégie de soumission à un certain niveau.
Il n'avait pas vraiment le choix. C'est-à-dire, ce que vous dites, ça va rappeler d'autres situations, c'est que il terrorisait les populations, mais il était lui-même... Alors, est-ce que terroriser, c'est trop fort? Mais il était sous le contrôle et avec une menace de mort permanente sur sa tête de la part du chef Joseph Kony.
Ben, on ne peut pas nier le fait qu'il a vraiment terrorisé les gens. Il était responsable de nombreuses agressions sexuelles, tortures... crimes contre l'humanité, crimes de guerre, mais à la fois, il est, je pense, l'un des premiers accusés en droit international qui lui-même a dû survivre les mêmes crimes dont il est accusé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un individu comme ça? On ne peut pas nier qu'il ait commis des crimes. C'est un fait. Mais à la fois, il faut reconnaître que le chemin qu'il a poursuivi, c'est vraiment un chemin pénible. Il a énormément souffert.
C'est ça. Et alors, vous avez une expression, Mark Drumble, que je trouve intéressante. Vous parlez de circularité entre la situation de la victime et celle du criminel, de l'auteur des faits. Circularité. Ils peuvent changer au cours du temps.
Oui, absolument. Je vais dire, le pouvoir, c'est très situationnel. Un jour, on peut être vraiment un géant et le lendemain, on peut vraiment se trouver dans une situation de vulnérabilité immense.
Mais alors, il faut pas... Mais vous insistez sur le fait, Mark Drumble, qu'il faut pas céder aux clichés. Qu'il y a un cliché qui peut être, qui est très répandu parmi les ONG, peut-être dans les esprits de nos auditeurs, c'est que tous les enfants soldats sont des Dominique Angouane. Ils ont tous été ratés, kidnappés, et ce sont des victimes absolues au départ.
Au départ, oui. Et c'est ça vraiment un aspect du procès de Angouane qui est tout à fait remarquable. Comme vous avez dit, les enfants soldats, dans cet imaginaire du droit international, en principe, on les voit comme des victimes et très innocents. Mais dès qu'ils atteignent l'âge de 18, toute l'adolescence, toute l'innocence est perdue à un certain niveau. Comme le procureur dans l'affaire Angouane a insisté que Angouane, à cause du fait que les crimes qu'il a commis, il les a commis après l'âge du 18, parce que la juridiction de la CPI, ça commence à l'âge du 18. La procureure a affirmé qu'il est responsable puisqu'il avait atteint l'âge du 18. Alors, pour elle, c'est comme si Angouane n'a jamais eu d'enfance, n'a jamais eu d'adolescence. Comme s'il est né quasiment à l'âge de 18.
C'est ça, comme si on lui avait volé son enfance, ce qui est le cas d'ailleurs, on lui a volé complètement son enfance.
Mais pas seulement volé, c'est comme si l'enfance a disparu à un certain niveau. Par contre, avant l'âge de 18, les enfants soldats, on les regarde, on les voit comme des victimes et très innocents. Mais à la fois, on peut être les deux, et ça c'est mon point principal. On peut devenir un auteur de criminalité, mais à la fois être un enfant victimisé et vulnérable. Par contre, Antoine, il faut que je dois vous dire aussi que la défense de Nguyen, à un certain niveau, est rentrée dans le même piège. Oui. Par exemple, pour les avocats de défense, eux, ils ont insisté que Nguyen a toujours été un enfant soldat et continue à être un enfant soldat aujourd'hui lorsqu'il se trouve dans ses quarantaines. Alors, c'est-à-dire, il n'a jamais dépassé ce statut d'être enfant. Par contre, pour le procureur, il a toujours été un adulte. Et naturellement, vous êtes juge, vous êtes avocat, ce n'est pas une nouveauté quand je vous explique ceci. Ça, ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies de comment... en défense, on doit défendre. Le procureur, il doit essayer d'obtenir une conviction, comme on dit en anglais.
Une condamnation.
On poursuit condamnation. Merci, Antoine. Mais ça, c'est normal. Ce sont les rôles de théâtre professionnel. Oui. Mais ce qu'on perd, c'est des questions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus de nuances qu'un individu peut être victime et victimiser d'autres à la fois. Et la dernière chose, juste tout court, en Ouganda, la population, pour eux, ils ont la capacité de saisir. Pour eux, c'est tout à fait naturel, à mon avis, que quelqu'un peut occuper ces deux rôles. Par contre, lorsque cet individu, Nguyen, arrive à La Haye, cette nuance est perdue à cause de la simplicité des perceptions qui sont fournies par le droit international.
Mais c'est ça qui est préoccupant, Mark Drumble, c'est que, à vous entendre, et je crois que c'est malheureusement vrai, c'est-à-dire que vous dites la Cour pénale internationale n'était pas le meilleur lieu pour restituer le contexte qui était celui de l'Ouganda, du nord de l'Ouganda. Et donc, est-ce que c'est la question que je vous pose, et que je me pose aussi d'ailleurs, c'est est-ce que une cour de justice est le meilleur endroit pour saisir cette subtilité de la mue, du passage d'un enfant kidnappé, d'un enfant martyrisé en un prédateur ou en un criminel?
À mon avis, non. Les réalités du droit pénal international sont très simples. Soit on est coupable ou on est innocent. Et comme Hannah Arendt l'a écrit dans son livre « Eichmann in Jerusalem », ce sont des questions entièrement reliées à l'accusé. À mon avis, la question plus intéressante que l'innocence ou la culpabilité ou la condamnation de Dominic Nguyen, ce sont des questions un peu plus sociologiques. On aurait pu, avec son procès, peut-être, on aurait pu développer une fonction plus pédagogique. Par exemple, enseigner au monde, donner des exemples par tout ceci, que la violence collective, ça commence avec les jeunes, ça commence par des pressions collectives, des pressions sociales, et un petit garçon de 9 ans peut devenir, je veux dire, un commandant qui peut commettre des crimes horribles. On aurait pu en parler, on aurait pu en discuter, on aurait pu se poser la question... Comment l'Ouganda, ce pays, comment peut-il se rebâtir, se reconstruire? Comment est-ce qu'on peut recultiver les liens sociaux dans la partie Acholi, c'est dans le nord de l'Ouganda? Mais tout ceci, toutes ces conversations ne sont pas admissibles dans un procès. Le procès ne s'intéresse pas à ça. Alors, on se pose la question... Est-ce qu'on envoie un individu à La Haye tout simplement pour punir cet individu ou est-ce qu'on essaie de créer quelque chose de plus préventatif pour prévenir ou pour instruire, enseigner comment une société, comment est-ce qu'elle peut se reconstruire et comment est-ce qu'on peut éviter ces catastrophes d'enfants soldats dans l'avenir.
C'est ça.
Et à mon avis, la condamnation d'Angouen, c'est une réussite si on veut condamner un individu pour des crimes, et peut-être c'est un peu de justice pour ses victimes. Mais ça arrête là. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Pour moi, cela me déçoit.
Vous avez une expression, vous utilisez une expression, Mark Drumble, qui est, je ne sais pas comment la traduire en français, vous dites il faut raconter, vous parlez d'étiologie criminelle, il faut que le tribunal puisse refaire l'étiologie de la violence. C'est bien ça ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'elle puisse faire remonter les mécanismes par lesquels on en est arrivé là.
Oui, je pense que c'est, à mon avis, il est important de reconnaître que Angouen, comme adulte, il avait une enfance. Il était tout jeune. Il était un adolescent. On ne peut pas oublier tout ça. Mais enfin, c'est son histoire personnelle, c'est lui. Et à mon avis, il est plus important de reconnaître son point de début, d'où il a commencé le kidnapping, sa socialisation, pour qu'on puisse créer des cultures, des droits des enfants, des cultures d'inclusion des jeunes, une certaine sécurité économique, pour éviter leur vulnérabilité de se trouver dans ces situations.
C'est-à-dire que votre solution, si je puis exprimer ainsi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, mais votre idée, c'est que le propre de la justice transitionnelle, qui doit s'appliquer aussi dans des cas comme ça, en dépit de l'horreur qu'a commise Dominique Ongwen, c'est de regarder le passé, mais en pensant à l'avenir, et de ne pas regarder le passé pour juger le passé.
Oui, et vous savez aussi, Antoine Garapon, un autre point important, c'est que Ongwen, on avait un procès contre lui, mais 99,9% des enfants soldats en Ouganda, des membres de l'armée du Seigneur, pour eux, ils ont reçu des amnisties. On leur a dit, le gouvernement leur a dit, écoutez, vous quittez l'armée et on vous amnistie, vous retournez dans vos villages. On va avoir des procédures un peu coutumiers, locaux comme ça. Et par la suite, on peut en parler de la réintégration.
Qui est un grand problème, la réintégration des enfants soldats.
Oui, il y a, mais je veux tout juste souligner que pour la plupart, la quasi-totalité des enfants soldats, le gouvernement de l'Ouganda a procédé autrement. Alors, Angouen a un certain sens, et il ne représente pas, à mon avis, la meilleure méthodologie. Mais
oui,
c'est ça.
Mais parce qu'il y a un conflit, mais c'est quasiment un cas d'école. Il y a un conflit entre le gouvernement ougandais qui choisit la voie de l'amnistie, de la réconciliation, de l'apaisement, et qui donne une sorte d'intéressement pour les gens qui rendent les armes. Et donc, comme vous dites, 99 et je sais pas combien pour cent et 5% en profitent. Et donc, lui, il y a un parfum d'arbitraire peut-être pour la population ougandaise de dire, mais pourquoi lui? Pourquoi Dominique Ongwen?
En grande partie parce que en 2005, le procureur à l'époque, c'était Luis Moreno Ocampo, avec cinq autres, il a émis comme un arrest warrant et Angouen était là-dedans et parmi les cinq. Et c'est le seul pour qui la CPI a eu l'occasion d'avoir. Il est rentré en custody, comme on dit en anglais.
En prison.
Parmi l'intervention de l'armée américaine. Il était envoyé à La Haye. Alors, il était là. Alors, il fallait avoir ce procès. Mais j'aimerais juste souligner qu'on, dans l'histoire de sa condamnation, à un certain niveau, on a perdu son propre histoire, tout ce qu'il a subi, et on a perdu un moment, à mon avis, d'apprendre cette question que la violence collective a des origines au sein, avec des gens ordinaires, comme on le dit en anglais, et vaut mieux reconnaître ce fait au lieu de construire en Gwen comme un caractère extraordinaire, mais parce qu'il est à la fois aussi très ordinaire.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
We are qualified, hey, don't you worry, don't you worry, we are qualified.
Oh, we are qualified,
hey,
as a special forces.
Don't you worry, we are qualified.
Oh, si yo sanko,
hey,
don't you worry,
hey. Don't you worry, we are qualified.
We can take a lead,
hey,
to any battlefront.
Don't you worry, we are qualified.
Oh, we are freedom fighters,
hey,
we are qualified.
Don't you worry, we are qualified.
Oh, we are qualified,
hey,
to go anywhere.
Don't you worry, we are qualified.
With your absence.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur les enfants soldats et plus largement sur cette conversion des victimes en criminels en compagnie de Mark Drumbel, qui est professeur à la Washington Lee University et qui a choisi de nous faire entendre comme première air cette chanson We Are Qualified et qui est chantée de Mark Drumbel par des enfants soldats eux-mêmes.
Oui, c'est ça, et ça, c'est une chanson, on dirait plutôt un chant qui vient de Sierra Leone.
C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire, We are qualified?
C'est un chant, une chanson qu'ils ont chantée lorsqu'ils ont fini avec leur éducation, leur formation militaire au sein d'un groupe rebelle, c'est en anglais « The Revolutionary United Front », le RUF. C'est comme, comment le dire, c'est lorsqu'ils ont bien réussi, et lorsqu'ils ont terminé, c'est le chant pour faire une commémoration de ça. Et cette partie « Don't you worry, we are qualified », en français, on dirait « Ne vous inquiétez pas, nous sommes capables, nous sommes qualifiés ». Et la chanson continue, nous « We can take a lead, we are qualified to any battlefront ». C'est comme on est prêt, on est devenu guerrier,
oui,
on est prêt, on peut défendre, on peut attaquer. Ne vous inquiétez pas.
Est-ce que on sent qu'ils sont quand même là dans ce cas-là, et c'est la question que je vous pose. Dernière question, peut-être. Il y a quand même des volontaires, il y a des garçons qui sont fascinés par la violence, des adolescents ou des préadolescents qui rejoignent volontairement les cohortes de jeunes soldats ou d'enfants soldats. Mark Drumbel.
Oui, à un niveau démographique, à peu près un tiers des enfants soldats sont kidnappés, enlevés, comme en Gwen, vraiment obligés dans des contraintes de violence de participer à un groupe armé. Alors, c'est-à-dire à peu près deux tiers, on dirait pas, ils choisissent pas, mais ils se présentent pour se faire enrôler à un certain niveau dans le groupe armé. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Naturellement, la pauvreté, c'est un facteur. Il y en a d'autres qui veulent trouver des moyens pour s'actualiser dans le monde, pour réussir, pour apprendre, pour avancer leur propre politique ou leur trouver quelque chose à faire. Ils ont des familles aussi souvent violentes. Ils aimeraient.
C'est ça. Il y a aussi quand on appartient à un groupe ethnique martyrisé, on défend son groupe et on rejoint donc la guérilla de son groupe.
Ça aussi. C'est aussi une partie très importante. Mais tout ceci pour dire que l'image circulée globalement par le droit international de l'enfant soldat comme très jeune et toujours kidnappé, Oui, il y a des enfants soldats comme ça, mais la majorité ne sont pas comme ça. La majorité sont des adolescents de l'âge de 14, 15, 16, 17. Et parmi et entre eux, je dirais pas que c'est la volonté parfaite, le free will comme ça, mais ils entreprennent des décisions, des choix, ils se présentent. Et on dirait pas que c'est une question de volonté, mais ce n'est pas très loin de ça.
Il y a des filles.
Et aussi, à peu près 40%, Antoine Garapon, à peu près 40% des enfants soldats, globalement, sont des filles.
C'est énorme, oui, quoi. C'est quasiment la moitié. Et puis, est-ce que tous les enfants soldats se battent? Il y en a d'autres qui font la cuisine, il y en a qui portent des messages, il y en a qui peuvent espionner. Ils font beaucoup d'autres choses que la guerre. Ils donnent un coup de main.
Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on a reconnu en 2007, dans votre pays, en France, en effet. Les acteurs internationaux ont adopté des principes de, ça s'appelle les principes de Paris, pour en effet avoir une définition d'enfants soldats qui n'utilisent pas le mot soldat, mais plutôt utilisent la phrase des enfants associés à des groupes armés. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des divisions entre les enfants qui sont des soldats et ceux qui occupent des rôles peut-être un peu plus auxiliaires, mais il y a aussi une circulation entre les deux. On peut occuper plusieurs rôles à la fois. Une chose importante qu'il faut reconnaître avec les enfants soldats qui sont des filles et des jeunes femmes, une grande partie, ça dépend. En Sierra Leone, c'était le cas. En Ouganda aussi, une assez grande partie des enfants soldats qui sont des filles, en effet, ils sont des esclaves sexuels. Ils sont dans des situations horribles. Par contre, il y a aussi dans d'autres groupes armés, des groupes qui poursuivent des idéologies de libération, de décolonisation. Il y a aussi des enfants soldats qui sont des filles, qui occupent des rôles de soldats, qui mènent les divisions et les autres et qui occupent des rôles importants. Ça, c'était le cas en Mozambique, par exemple.
Est-ce que c'est un phénomène exclusivement africain? Parce que c'est aussi un problème, quoi. C'est un malaise qu'on ressent. C'est que quand on parle des enfants soldats, on parle toujours de l'autre et cet autre, c'est l'Afrique. Il y a aussi beaucoup d'exemples. Je pense aux terroristes chez nous, en Europe, en France, c'est-à-dire des jeunes qui ont moins de 18 ans, qui rejoignent des organisations terroristes, qui vont commettre des choses parfois horribles, souvent ailleurs qu'en France, mais parfois en France aussi. Donc, est-ce que c'est pas une des difficultés dans cette représentation, cet imaginaire du droit international, comme vous l'appelez, Mark Drumble?
Oui, tout à fait. Vous savez, lorsqu'on a commencé à reconnaître l'enfant soldat comme un sujet auquel le droit international s'intéresse, c'était dans les années 90. Et à cette époque, la plupart des conflits dans lesquels les enfants ont participé ont eu lieu en Afrique. Alors ça, c'était à l'époque le moment. Alors, à cause de ça, puisque le développement du droit a commencé dans une période où il y avait plus beaucoup de conflits en Afrique avec des enfants, on est devenu cette association entre l'enfant soldat et l'Afrique a commencé. Comme vous l'avez dit avant, actuellement, le plus grand nombre d'enfants soldats se trouve en Irak, Yémen, ISIS en Moyen-Orient. Et la définition, selon les principes de Paris, la définition de l'enfant soldat, c'est un enfant associé à un groupe armé. Et l'enfant, c'est quelqu'un, un être humain, qui à l'âge de 18 ou moins. Alors, avec cette définition, il y a des enfants soldats dans les forces armées canadiennes, américaines, britanniques, Au Canada, c'est 16 ans. En Grande-Bretagne, c'est 16. Chez nous, aussi aux États-Unis, c'est 17. Alors, cette définition, c'est vraiment un phénomène global, franchement.
C'est ça. Alors, vous avez dans votre réflexion, vous avez une réflexion très profonde, Mark Drumbel, sur ce paradoxe de la victime qui devient coupable. Vous avez écrit aussi, on va revenir en France, on va revenir chez nous en Europe. Vous êtes intéressé aux procès qui ont été faits en Israël après la guerre aux capots. Vous pouvez nous expliquer qui étaient les capots dans les camps de concentration?
Oui, dans les camps de concentration nazis, à peu près 10% des prisonniers ont participé dans la gestion du camp de concentration, mais ont occupé des rôles d'organisateurs, de mener les groupes de travail et tout ça. Et une des choses les plus horribles que les nazis ont effectuées, c'est vraiment de recruter parmi les victimes d'autres victimes, vraiment pour victimiser les autres. Alors après la libération des camps de concentration et la création de l'État d'Israël, et la répatriation de beaucoup d'Européens en Israël, un phénomène a eu lieu, qu'il y a eu des gens qui ont survécu l'Holocauste, qui à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, se trouvaient dans des endroits publics, aller à un concert, aller manger dans un resto, prendre un crème glacée dans la rue, et qui ont, dans ces rues, rencontré d'autres prisonniers du même camp de concentration qui ont commis des actes de violence contre d'autres prisonniers et qui ont été sélectionnés par les nazis d'occuper ce rôle de capot.
C'est un peu le même phénomène que l'enfant soldat, finalement. Ils étaient pas en capacité de consentir. Ils ont été pris, sélectionnés, et après, ils ont fait des choses terribles.
C'est exactement ça. Et c'est Primo Levi, cet auteur italien, dans ses livres qu'il a écrits à propos de ses expériences à Auschwitz, a souligné le capot comme un être humain qui... c'est très difficile d'en parler, mais à la fois, il faut reconnaître ce phénomène de victime qui victimise d'autres. Alors, en Israël, lorsque les anciens capots ont affirmé leur statut d'être des gens qui ont survécu l'Holocauste, il y en a d'autres qui ont dit, mais c'est complètement ridicule. Et dans le Knesset a adopté une loi, The Nazi and Nazi Collaborators Punishment Act, qui a été utilisé à peu près une quarantaine de fois pour commencer des procédures pénales contre les capots en Israël. Et on a eu, à mon avis, si je me rappelle bien, un nombre de gens qui ont été condamnés, mais les juges ont eu vraiment de la misère lorsqu'il est arrivé au moment de dire comment est-ce qu'on va punir
cet individu. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est une sorte...
Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, ils y sont... Quoi, à vous lire, ils ne s'y sont pas arrivés en dehors de quelques rares condamnations. Ils n'arrivaient pas à condamner.
Et la peine moyenne, c'était, si je me rappelle bien, 17 mois en prison. Mais franchement, ces procès ont été très controversés. Mais à mon avis, une chose qu'on doit dire, à un certain niveau, ces procès ont réussi à commencer une conversation à l'égard de la réalité et de la complexité de la violence. Et une chose très intéressante, Antoine Garapon, c'est que des capos qui ont été accusés dans les années 50, dans les procès contre les capos. Il y en a quelques-uns qui ont témoigné au début des années 60 contre Adolf Eichmann dans son procès à qui a eu lieu à Jérusalem. Et je me pose la question, peut-être ça aussi, c'est un processus, je ne sais pas, d'avoir une conversation nationale par rapport à la complexité de violence. Mais pour revenir au début de notre conversation, je pense que la plupart des individus, des juges et d'historiens et ceux actuellement qui discutent des procès contre les capos ne pensent pas que c'était la meilleure idée. Et peut-être il y a d'autres moyens.
Alors, oui, justement, d'autres moyens. Vous insistez beaucoup sur la conversation. Et pour comprendre le rôle de la conversation, il faut revenir sur une autre idée qui me semble très, très importante. C'est la solitude morale, on dirait en français, ethical loneliness, de la victime. La victime est enfermée dans un silence, dans une solitude qui fait l'incommunicabilité, qui rend incommunicable ce qu'elle a vécu. Et cette solitude, pour vous, est un point de départ pour comprendre le rôle de la justice, Mark Drumbel.
Oui. Alors, si on se fait victimiser, si on a vraiment eu une expérience horrible, d'abord, on se sent très seul parce qu'à un certain niveau, la communauté internationale vous a abandonné parce que cette situation a eu lieu et il n'y a pas eu d'intervention pour sauver des victimes. Mais si celui qui cause les blessures, la violence, si on est affligé et celui qui, l'auteur de ces actes, si l'auteur de ces actes est à la fois lui-même une victime, un capot, un enfant soldat, les gens qui sont victimisés par d'autres victimes se trouvent dans un endroit très de solitude, très seul, parce que dès qu'ils commencent à parler de leur douleur, de ce qu'ils ont subi, dès qu'ils commencent, l'interlocuteur avec qui ils veulent partager leurs expériences, va dire « Écoute, tu as beaucoup souffert, mais il faut reconnaître que l'enfant qu'il a fait, le capot qu'il a fait, n'avait pas de choix à le faire. L'enfant soldat a été drogué, obligé, sous des contraintes incompréhensibles. » C'est comme le capot. Mais ce qui arrive dans ce moment, quelqu'un veut partager ses expériences, sa douleur, et dès qu'il commence, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Écoute, tu n'es pas le seul victime, on arrête d'en parler parce que celui qui l'a fait, lui, oui. Il était un victime. »
Mais comment on en sort?
À mon avis, c'est très difficile. Et au moins les procès avec les capots, au moins... Ils ont créé un endroit où des victimes ont eu, je ne sais pas, un petit endroit d'en parler. Ce n'est pas le meilleur endroit, mais c'est quelque chose.
Et vous avez assisté vous-même en Afrique à des conversations, comme vous dites, à des rencontres, on pourrait dire, entre des victimes et des auteurs qui avaient été enfants-soldats, cette explication collective ou interindividuelle entre les victimes et d'anciennes victimes qui étaient devenues auteurs.
Oui, j'en ai assisté, j'en ai participé, et un phénomène que j'ai remarqué, c'est que souvent, ces genres de rencontres dont vous avez parlé, ils sont organisés par des NGO internationales, des ONG en français, je traduis mal de l'anglais. Et ce qui se passe, c'est que ces acteurs internationaux interviennent, disons, et organisent des rencontres. Mais avant que ça commence, on a la communauté qui est là, et avant que ça commence, les acteurs internationaux des groupes de droits humains, ils instruisent, ils disent à la communauté que tous les enfants sont des innocents, et tous les enfants n'avaient aucune idée ce qu'ils faisaient. Et le but de cette conversation, c'est de réintégrer les enfants. Et alors, les victimes, ils devraient se taire à un certain niveau pour ne pas nuire à ce processus de réintégration qui est conditionné sur...
Mais ça c'est difficile à entendre quand on est victime. D'entendre une chose comme ça, c'est une chose pareille, c'est très difficile, j'imagine, non, Mark Drumbull?
Oui, ça, c'est difficile à avaler à un certain niveau, non, pour les victimes, parce qu'eux, ils doivent souscrire à un certain niveau, à un point de vue, que les enfants soldats sont entièrement 100% des victimes innocents et vont recevoir des bénéfices aussi qui proviennent des groupes internationaux pour faciliter leur réintégration. À mon avis, on peut suivre ce chemin, mais il faut aussi donner un peu de place pour les victimes pour dire, écoute, j'ai vraiment souffert, c'est vous qui avez fait ça à moi. Et la plupart des victimes, selon eux, tous les enfants soldats ne sont pas des innocents. Tous les enfants soldats ne sont pas complètement abusés. Et Antoine Garapon, il y a un problème aussi avec la réintégration. Beaucoup d'enfants soldats qui ont été, entre guillemets, réintégrés dans cette façon de donner des leçons avec les internationaux qui donnent des leçons à la communauté que les enfants sont innocents, une grande partie de ces ex-enfants soldats ne sont pas acceptés dans la communauté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à s'orienter vers la criminalité.
Criminalité ordinaire. Mais oui, mais c'est ça aussi, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les issues de conflits, où je pense aux maras en Amérique du Sud, où les jeunes, quand il n'y a plus de guerre civile, si on ne travaille pas cette transition de la violence, eh ben ils constituent des bandes de délinquants.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
It's really quite a joke. I see him down the road. I asked if he'd be willing to lend me 15p. I'm dying for a smoke. I'm just as sane as anyone. It's just a game I play for fun. For fun. I told him, look, I said, I'm not the way you're thinking. Just when I'm down, I'll be the clown. I'll play the fool. I'm just as sane as anyone.
Esprit de justice qui continue de réfléchir avec Mark Drumbull, professeur de droit à Washington Lee University, continue de réfléchir sur cette paradoxe des victimes qui deviennent coupables. Et Mark Drumbull, vous avez choisi de nous faire entendre Asylum par Supertramp.
Oui, c'est une chanson dont il y a deux lignes de paroles que je trouve très 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 important pour moi. C'est à la fin de la chanson, well, I've been living next to you, my friend, but what kind of friend are you? Alors en français, c'est que j'habite à côté de toi, mais quelle sorte d'ami tu es? Quelle sorte d'ami? Oui. Quelle sorte de voisin? Et pour moi, ça aussi, c'est une réalité importante au sein des conflits collectifs. C'est que c'est souvent des voisins contre voisins. C'est l'enfant qui naît à l'autre côté du village qui, un jour, arrive avec un machette et commence à tuer tout le monde. Et pour revenir à ce dont on a discuté avant la chanson de Supertramp, c'est quoi la meilleure façon de réintégrer un enfant soldat? À mon avis, ce n'est pas la justice pénale, mais c'est une justice réparatrice, restauratrice, axée sur une certaine réciprocité. C'est-à-dire, la communauté a des obligations à l'enfant, à l'adolescent, mais l'adolescent aussi a des obligations vers la société. Et c'est ça l'inclusion, c'est ça être le phénomène d'être un citoyen.
C'est ça, mais à ce moment-là, ce que vous dites, oui, c'est contre le paternalisme un peu protecteur qui est spontané de dire qu'il faut protéger les enfants soldats, ils sont irresponsables.
Exactement, mais c'est vrai, je suis un peu, je dirais pas que je me méfie, mais à un certain niveau, j'ai une certaine, je sais pas, je pense pas que le protectionnisme, ça réussit toujours, mais aussi, il faut aussi éviter l'autre extrême, c'est-à-dire de voir des enfants criminalisés comme étant infernal, comme étant horrible, sans la capacité de s'améliorer. Ça aussi, c'est avec la chanson de Supertramp. I'm just as sane as anyone. Moi aussi, je suis normal. J'ai un avenir. J'ai la capacité d'être réintégré. Et à mon avis, la solution se trouve dans le milieu. Une justice restauratrice, réparatrice. Allez-y.
Marc Dumble, ce que je trouve fascinant dans tout ce que vous nous dites, c'est à quel point ça nous renvoie au problème de la justice ordinaire. Finalement, il y a beaucoup de criminels adultes de nos tribunaux, cours et tribunaux aux États-Unis comme en France, qui ont eu des enfances terribles, parfois qui ont été initiés au vol par leurs propres parents. Et je suis frappé de l'actualité de ce débat. Je remarque que c'est peut-être comme ça aux États-Unis, en France et en Europe continentale, on a de cesse que de vouloir abaisser l'âge de la responsabilité pénale. Ça veut dire qu'on veut considérer les adolescents de plus en plus jeunes comme absolument responsables de tout ce qu'ils font pénalement.
Oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cet autre exemple de l'enfant qu'on peut pas, qui n'a aucun espoir, qui n'a aucun avenir, un enfant très problématique. Mais vous savez, à mon avis, cette différence entre l'enfant au sein des systèmes de justice nationaux et l'enfant soldat au sein de la justice internationale, moi, je peux comprendre cette différence parce que les enfants chez nous qui sont en train de commettre des crimes, ils nous menacent. L'enfant soldat, comme vous avez dit au début de l'émission, dans des régions autres que la France, que Royaume-Uni, États-Unis, ils ne nous menacent pas. Alors, à cause de ça, c'est plus facile pour nous de les voir comme des innocents, mais on procède pas de la même manière avec des enfants chez nous, parce que eux, ils nous menacent, ils nous causent une insécurité. Et pour moi, c'est toujours un problème lorsque, avec le droit, on l'approche, je dirais pas que c'est l'hypocrisie, mais avec des, comme on dit en anglais, double standards,
oui,
des approches différentes selon la provenance de l'enfant. Pour moi, ce n'est pas une approche, c'est politique,
pas
une approche intellectuelle ou morale.
Mais alors, c'est une approche intellectuelle ou morale, c'est quand même les limites du droit pénal, et j'allais ajouter les limites de la justice pénale internationale, Marc Drumble. C'est-à-dire que, finalement, si on reprend l'affaire de Dominique Ongwen, vous êtes assez sévère sur le bilan de la Cour pénale internationale. On a l'impression que elle a pris cet exemple, elle a fait une justice pour l'exemple.
Oui, c'est possible, mais je comprends aussi parce que la Cour pénale internationale veut faire quelque chose. Elle a eu un accusé. Et alors, c'est à un niveau bureaucratique, c'est très, très, très logique.
Oui.
Mais écoutez, il est très facile de critiquer la CPI. Mm. Très facile. Mais à mon avis, j'appuie la CPI. Elle joue un rôle important. Mais il faut avoir beaucoup plus que la CPI. Et à mon avis, lorsqu'on parle constamment de la CPI, c'est comme c'est l'oxygène dans la chambre. C'est une expression anglais. The oxygen in the room. C'est la CPI qui prend tout l'oxygène.
Oui, c'est
et
ça.
Il y a de moins en moins d'occasions de parler d'autres moyens de justice qui sont très importants.
Comme la justice restaurative. Et comme
exactement. Exactement. Et alors, pour moi, c'est ça le problème. La haie ne va pas résoudre tous les problèmes qu'on a. Il faut appuyer la CPI, mais il faut devenir à la fois, il faut être modeste. Et c'est quelque chose que je dirais non seulement à la CPI, mais à tous les juristes, à tous les avocats, à tous les gens qui sont éduqués, formés, qui ont une formation juridique, légale, le droit... Ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Et peut-être il faut avoir un peu moins, je dirais pas moins d'ambition, mais un peu moins d'attente. Peut-être.
Vous dénoncez, Marc Drobel, cette sorte d'arrogance du droit. C'est-à-dire, on a fait du droit, c'était très vrai de ces dernières décennies, on a fait du droit une sorte de religion, dites-vous. Et il faut aussi être capable de peut-être rendre justice par d'autres moyens, comme la justice restaurative. Et puis, il faut s'attaquer à des problèmes dans lesquels, à l'image de la violence collective, des problèmes dans lesquels c'est une violence diffuse. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de lutter contre une violence diffuse, Marc Drumble.
Oui, on a une Cour pénale internationale, on n'a pas une commission de vérité internationale, par exemple. Mais ça aussi, comme en Afrique du Sud, c'est un moyen important d'entamer, de démarrer un processus de justice. Aussi, pour la plupart des gens, des moyens comme le théâtre, l'art, les chansons aussi, tout ceci, les musées, la commémoration, c'est très important. Les réparations, ça aussi, c'est très important. On peut faire une condamnation de Nguyen, mais qu'est-ce que ça porte directement pour ses victimes? Pas tant que ça.
Oui, pour revenir sur la justice, il y a une expression que j'ai trouvée dans vos articles qui est de Primo Levi à propos de nos capos. Il disait c'est tellement difficile de juger quelqu'un qui est victime et qui étant victime s'est converti en criminel que il y a une sorte de paralysie de la justice, impotentia judicandi. La justice finalement n'est plus le meilleur moyen pour juger ses affaires.
Oui, à mon avis, Primo Levi a tout à fait raison. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Et peut-être, toute l'affaire Nguyen, peut-être, à mon avis, j'ai eu l'espoir, peut-être, qu'il y aurait des juges ou des acteurs à la CPI. Ils auraient pu dire ça, non? Ils auraient pu dire, écoutez, ce n'est pas un accusé. On n'a pas été créé comme une institution pour avoir un individu comme Nguyen parmi nos accusés. Ça aussi, ils auraient pu le
dire. Oui, ce qu'on dit un peu les juges israéliens dans les affaires des capots, où ils disent, on a plus de choses à dire, on a découvert énormément de choses sur la vie interne des camps nazis, et finalement c'est plus au niveau narratif, au niveau de l'histoire qu'on peut apporter quelque chose que par des condamnations.
Oui, les juges en Israël ont été beaucoup plus modestes, honnêtes, peut-être avec leur capacité de punir, de juger, Mais là, Antoine Garapon, peut-être ça aussi, c'est à cause d'un autre point important. Les Juifs en Israël ont partagé le même État, la même culture, le même pays. Avec les juges internationaux, ils sont très, 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 très loin de l'Ouganda. Très loin. Ils n'ont pas cette même communauté entre eux et l'endroit où la violence a été commise. Alors, à mon avis, une leçon qu'on peut apprendre, c'est peut-être parfois les acteurs nationaux ont une finesse, peut-être, que les acteurs internationaux n'ont pas.
Oui, finesse d'autant plus importante que vous insistez beaucoup sur ces expressions que vous avez forgées dans votre livre sur les enfants soldats. Vous dites, dans le fond, pour bien juger un enfant soldat, il faut remettre l'action dans son contexte, c'est-à-dire qu'il faut voir l'action en situation. On ne peut faire de jugement qu'en situation, dites-vous, et comprendre la situation d'un enfant soldat, c'est très difficile, encore plus quand on est à la haie.
Absolument, mais aussi, ce n'est pas seulement l'importance de ces questions contextuelles, on peut les apprécier avec les enfants soldats, mais aussi, c'est avec les adultes. En effet, je me pose la question, c'est quoi vraiment la différence entre quelqu'un de 17 ans et quelqu'un de 20 ans, 22 ans? Tout ce processus avec le droit des enfants, c'est complètement axé vers des questions de chronologie. L'âge de 18, c'est un point magique, un point de passage comme ça. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et il y a des enfants de 16 ans, 17 ans, qui ont des responsabilités énormes, qui sont vus ou aperçus dans des communautés culturelles comme des adultes. Et il y en a d'autres à 25, 30 ans, s'ils ne sont pas mariés, s'ils ne doivent pas travailler, s'ils n'ont pas des enfants, ils sont encore vus comme des enfants. Alors, je pense qu'il faut apprécier aussi que le droit international orienté dans ce domaine vers enfants ou adultes à l'âge du 18, c'est comme le droit pénal, coupable ou innocent.
C'est ça.
C'est trop simple.
C'est trop simple. C'est trop simple. Et vous dites, on terminera peut-être là-dessus, vous dites que finalement la justice pénale en général, et la justice pénale internationale peut-être encore plus, elle est en quête de pureté. Elle aime bien les catégories bien claires, coupable, non coupable, et ça se termine par une peine de prison. Or ça, c'est pas compatible avec une recherche de la subtilité que vous appelez de vos voeux, Marc Drumbel.
Absolument pas. Et la condition humaine, et l'ontologie de l'être humain, c'est très subtil, c'est très compliqué. Et si on veut vraiment avoir un processus de justice, de reconnaître, de comprendre la violence et vraiment de comprendre comment on peut aller au-delà, selon moi, il faut commencer avec des conversations plus honnêtes, plus franches, peut-être plus difficiles. Et à mon avis, c'est là où il faut commencer.
Moins borné par des catégories. Plus ouvert, ça veut dire qu'on est prêt à entendre beaucoup de choses. Or, finalement, on ne peut pas tout dire dans un procès.
Exactement. Et il faut aussi entendre les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce qu'ils le décrivent, leurs expériences? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et là aussi, on a de la misère. Les adultes, ils n'entendent pas souvent les enfants. Et c'est très important.
Eh bien, écoutez, nous, on vous a bien entendu ce soir, Marc Drumbel. Vous avez très bien parlé dans un excellent français. Pour tout ça, je vous remercie de cette émission. Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Ruben Carmazin. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Caroline Boulet-Gozzi. Une émission d'Antoine Garapon.